Merci beaucoup, Mgr Sauchu, de son accueil. Voilà, on se connaît depuis un certain temps, depuis le temps des études. Et pour moi, c'est une vraie aventure. Je suis né à Lille, donc vous voyez ce qui m'arrive ce soir. Je suis à l'extrême sud, mais c'est avec grand plaisir. Voilà, je suis près du diocèse de Sens, en Bourgogne. Dans la présentation, la seule chose peut-être qu'on peut dire aussi, c'est que je suis depuis des années visiting professor dans une université indienne à Bangalore, où tous les ans je vais faire cours depuis une quinzaine d'années. Donc la demande qui m'avait été faite par votre évêque portait d'abord sur la morale. Hein, voilà, il souhaitait que je puisse investir finalement l'articulation Bible et morale, ce que je vais faire. Voilà, ce que je vais faire. Mais en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que pour le faire, il fallait absolument que je remonte en amont, c'est-à-dire que j'aborde un tout petit peu aussi avec vous la question de l'exégèse biblique dans l'Église catholique, qui a été une question très discutée depuis la fin du XIXe siècle, et finalement on est dans une période extrêmement calme aujourd'hui. Au fond, les principes de notre exégèse contemporaine ont été définis ultimement par le pape Benoît XVI dans son exhortation post-synodale Verbum Domini, et pour moi ce texte de 2009 marque la fin d'un processus qui a duré un siècle et un quart. Je vais vous en dire deux mots. Pourquoi je vous en dis deux mots? Je vous le dis en trois mots. Finalement, il y a 40 ans, quand on demandait à la Bible un service en matière de morale, c'était un service en termes de preuves. On demandait au texte biblique de prouver une définition morale donnée a priori, et on pourrait dire que, à cette époque-là, finalement, l'exégèse biblique avait une fonction essentiellement apologétique, c'est-à-dire qu'il s'agissait de démontrer le dogme et plus particulièrement les principes moraux de la foi chrétienne. Les choses ont évidemment changé quand, à la suite du Concile Vatican II, 1965, la Constitution Unie Verbum, l'Église catholique a entrepris d'analyser de manière scientifique et critique le texte biblique, c'est-à-dire en prêtant davantage d'attention aux auteurs, à leur époque, au contexte d'écriture des textes. Et il y a eu un moment un petit peu de difficulté, hein, parce que évidemment, lorsque l'on rentre dans une telle démarche, c'est un foisonnement de résultats qui intervient, et donc c'est un moment où il y a une espèce de divorce, hein, de séparation entre la réflexion en théologie morale du pape, et puis, d'autre part, le travail des biblistes, hein, qui restent un peu dans leur coin à faire leur travail assez technique. Comment sortir de là? Je pense que c'est la dernière phase, et nous sommes en train de la vivre. Hein, c'est à partir des années 90, essentiellement, que l'Église insiste sur la dimension canonique de la lecture et de la compréhension de l'interprétation du texte biblique. Canon, c'est un terme grec, canon, qui veut dire une règle. La Bible, le canon des Écritures, c'est-à-dire les textes qui sont sélectionnés dans cette Bible, c'est la règle de notre foi. J'avais un professeur de Nouveau Testament, quand j'étais étudiant, qui s'appelait Charles Péron, il est malheureusement décédé, qui est près du diocèse de Moulins, et donc c'est un homme qui avait un certain humour, et alors il me disait, il était très, très étonné, « Chers amis, vous savez, le plus important dans la Bible, c'est l'armure. L'armure qui fait tenir ensemble des livres aussi différents dont le voisinage va faire sens. » Donc, au fond, entreprendre une approche canonique de l'Écriture, c'est la dernière phase que connaît aujourd'hui l'Église catholique, et bien cette approche canonique doit nous permettre de trouver des axes structurants, hein, du canon dans son ensemble, et qui vont évidemment devenir des sources d'une réflexion morale beaucoup plus ouverte et fédérant beaucoup plus les Écritures que les deux approches précédentes que je vous ai citées. Alors néanmoins, après l'exposé un petit peu rapide de ces trois phases, il faut quand même que je remonte à la fin du XIXe siècle pour expliquer où est le problème. Le problème, c'est que très longtemps, hein, nos prédécesseurs dans la foi ont pensé que historiquement le texte biblique disait la vérité. Hein, au fond, des générations de croyants, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ont lu le texte biblique en faisant foi, je dirais, au scénario historique présenté par le texte biblique. C'était d'autant plus facile que l'histoire, finalement, ne s'était pas constituée en science humaine indépendante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, et surtout au milieu protestant, pour commencer, un certain nombre d'historiens regardent la Bible et disent il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui méritent réponse. Il y a deux récits des origines. On commence la lecture de Genèse 2 et on a l'impression qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en Genèse 1. On a des chiffres contradictoires dans le récit du déluge, etc. etc. Donc les historiens se mettent en route et d'une manière un peu polémique, hein, en demandant d'une certaine manière aux croyants de faire leur preuve. Hein. D'abord en monde protestant et puis à la fin du siècle, cette approche critique protestante commence à apparaître également en monde catholique et au fond on arrive à un conflit des vérités. Comment faire pour articuler d'une certaine manière la vérité révélée, c'est-à-dire les vérités de foi, voilà, ce que nous apprenons dans les conciles christologiques et ce que nous apprenons, je dirais, dans les énoncés de la tradition magistérielle, et puis d'autre part, la vérité historique des scientifiques qui s'est constituée au XIXe siècle. Et donc, il apparaît qu'il y a un conflit entre ces vérités, et c'est le pape Léon XIII qui va faire les premiers pas, des pas très intéressants, pour tenter de résoudre ce conflit. Je vous ai mis ça dans le petit polycopier qui vous a été distribué, et sur lequel vous pourrez revenir de manière plus tranquille chez vous, à la première page, sous le titre « L'encyclique Providentissimus Deus ». Voilà, l'encyclique Providentissimus Deus. On est en novembre 1893, et donc le pape Léon XIII, conscient des enjeux d'une juste interprétation de l'Écriture, fait la liste d'une certaine manière des choses dont il faut tenir compte pour interpréter l'Écriture. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui tiennent, je dirais, à l'accompagnement de l'interprétation des Écritures par l'Église, hein, c'est-à-dire que nul n'interprète seul les Écritures, d'une part parce qu'il est précédé par des générations de chrétiens, et que, au fond, quand je lis l'Écriture, même seul dans mon bureau ou seul dans ma chambre, je la lis toujours dans le cadre d'une Église dont il me faut tenir compte. Donc le pape Léon XIII rappelle cela, mais il dit que les travaux scientifiques faits depuis un siècle sur l'Écriture sont tout à fait honorables et doivent être développés, mais leurs résultats, écrit-il, doivent être articulés avec les données de la tradition, et plus particulièrement avec les données des études faites par les pères de l'Église dans les premiers siècles de notre ère. Donc au fond, le pape Léon XIII ne résout pas les problèmes, mais il définit ce que pourrait être un chantier exégétique. Alors ce que ne savait pas le pape Léon XIII, c'est que le chantier avait duré plus d'un siècle, ce qui est très impressionnant. Je vous ai mis sur le papier que vous avez eu les étapes les plus importantes de ce chantier. Il y a une étape qui ne vient pas forcément immédiatement à l'esprit, qui est une étape, parce qu'elle se passe pendant la guerre, on est en 1943, mais c'est le 50e anniversaire de Providentissimus Deus, et c'est le pape Pie XII qui écrit une encyclique qui s'appelle Divino Volente Spiritu, et qui va mettre l'accent sur l'importance des études historiques et critiques sur le texte biblique. Le pape Pie XII écrit que, vous lirez ça dans le texte que je vous ai cité, que pour comprendre un texte biblique, il faut connaître son auteur. Pour connaître son auteur, il faut donc mener une enquête historique, mais le pape Pie XII rappelle ensuite que ce travail est un préalable à la juste interprétation théologique et morale de l'Écriture. Évidemment, un moment très important dans l'évolution des études bibliques en milieu catholique, c'est le Concile Vatican II. C'est la constitution dogmatique des Verbum. Donc, la constitution sur la révélation, dont je vous ai cité les numéros un petit peu stratégiques, cette constitution tient ensemble un certain nombre de principes essentiels et fait évoluer la compréhension de la révélation hein, par rapport au Concile Vatican I qui avait été interrompu par la guerre de 1870, puisque pour le Concile Vatican II, on ne peut pas considérer d'un côté la Bible et de l'autre, ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire tout ce qu'aurait dit l'Église comme commentaire de la Bible depuis sa clôture. Autrement dit, le Concile dit qu'il n'y a pas deux sources à la révélation. La tradition est à comprendre comme un déploiement, comme un développement, comme un commentaire des textes bibliques, et la tradition fait corps, d'une certaine manière, avec ces textes bibliques. Ça, c'est un premier point. Au numéro 3, un point important aussi, c'est que Le Concile rappelle que théologiquement et spirituellement, ce qui fait l'unité des Écritures, c'est le Christ lui-même. Autrement dit, ouvrir la Bible, c'est partir à la rencontre du Christ. Et le pape Benoît XVI, que j'évoquais tout à l'heure, le dira d'une manière encore plus percutante 50 ans plus tard dans Verbum Domini, hein, il parlera de la lecture des Écritures lors de la messe, hein, en disant que c'est un élément quasi-sacramentel, voilà, un quasi-sacrement. Ce temps de l'audition de la parole dans le cadre de la liturgie eucharistique. Et pourquoi dire cela? Parce que, au fond, de multiples manières et par de multiples facettes, les Écritures nous donnent accès au Christ, ancien comme Nouveau Testament. Le Concile rappelle également la nécessité de ne pas laisser tomber une enquête historique. Pour quel motif? Simplement pour ne pas faire de contresens sur le texte. Je pense que l'enquête historique n'est pas une interprétation du texte, mais elle est un moyen d'éviter le contresens. Le Concile insiste sur la dimension canonique de la lecture que nous avions déjà signalée. Et puis, au numéro 10, il insiste également sur la régulation magistérielle de l'interprétation. Donc, il y a un corps magistériel dans l'Église catholique, l'ensemble des évêques, qui régulent d'une certaine manière l'interprétation du texte biblique. Voilà. Je suis assez rapide sur ces éléments, ce n'est pas immédiatement cela qui nous réunit ce soir, mais plus ce que, au fond, ces étapes ont permis dans le champ qui va plus nous occuper, qui est le champ de la théologie morale. La réception du Concile Vatican II, il faut quand même en dire deux mots, parce qu'au fond, ce qui s'est passé après le Concile n'est pas exactement ce qu'on attendait. D'une part, vous voyez que j'ai cité un certain nombre de critères que fournissent les pères conciliaires pour toute interprétation catholique, authentique de l'Écriture. Il faut tenir tous ces critères ensemble. Et au fond, ce qu'on remarque après le Concile, première orientation, c'est que dans l'exégèse universitaire, en tout cas, c'est vraiment l'approche historico-critique des textes qui va être poussée, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'attacher à préciser qui est l'auteur, le moment de la composition, l'histoire du texte, mais on va un peu laisser tomber la dimension canonique de l'approche, et partant, on va laisser tomber un petit peu la recherche d'un sens théologique et d'un sens spirituel de l'Écriture. Il y a un deuxième événement qui se passe après le Concile, et qui est complètement indépendant du Concile, c'est qu'il y a un philosophe protestant français, Paul Ricoeur, que sans doute beaucoup d'entre nous connaissons. Paul Ricoeur donc s'intéresse à l'interprétation des textes, quels que soient ces textes. Hein. Et il met l'accent sur l'existence, dans tout acte de lecture, le vôtre, le mien, de trois instances qu'il faut penser de manière séparée. Il y a le texte en lui-même, il y a l'auteur du texte et il y a le lecteur. Ce que dit Paul Ricoeur, c'est quelque chose qui peut nous sembler une évidence. Il dit le texte s'autonomise assez vite de son auteur. C'est vrai que quand nous ouvrons le texte bébé, nous sommes pris éventuellement par la beauté du texte, si c'est un psaume, nous sommes pris par la dramatique du texte, si c'est le récit de la Passion, nous sommes pris éventuellement par des récits épiques dans l'Ancien Testament, mais la question de l'auteur n'est pas forcément celle qui nous occupe immédiatement. Ricoeur dit ça d'une manière un petit peu provocatrice, il dit ces exégètes qui passent leur vie à chercher les auteurs du texte et l'histoire du texte me font penser à des médecins anatomopathologistes qui dissèquent un cadavre, hein, donc la Bible n'est pas un texte mort, ce n'est pas une archive, c'est un texte vivant, et il faut au fond rendre compte du fait que la Bible est vivante. Hein. Et donc pour lui, au fond, l'important c'est cette réaction qui existe entre un lecteur et le texte biblique. Voilà, c'est-à-dire que si je suis un vrai lecteur, c'est-à-dire si quand j'entends un extrait de la Bible, je ne me dis pas « je le connais déjà », parce que ça peut nous arriver souvent à la messe. Hein. « Ah tiens, tel texte, je le connais déjà », et puis on écoute de manière plus distraite. Donc si je fais un vrai acte de lecture, c'est-à-dire si je me laisse faire par le texte, dirait que alors je vais sortir de ma lecture différente. Autrement dit, la lecture est un acte risqué où j'accepte de me laisser dépayser par un texte qui n'est pas le mien et ce texte me renvoie à moi-même transformé. C'est ça qui se passe dans toute opération d'audition attentive ou de lecture d'un texte biblique. Et donc, la conséquence de cette pensée de Paul Ricoeur dans la pratique de la Bible, et ça a eu beaucoup de conséquences en catéchèse, ça a eu beaucoup de conséquences pour la pastorale biblique auprès des jeunes, c'est qu'on s'intéresse à la dynamique narrative de la Bible. Alors, on regarde la Bible comme récit, hein, et autant, si vous voulez faire des analyses historiques et critiques du texte biblique, je vous souhaite bon courage, j'en fais, et donc je vous souhaite bon courage, autant... une lecture narrative de la Bible, c'est comme Tintin, hein, ça vous pouvez faire ça de 7 ans à 77 ans et même après, hein, c'est-à-dire que c'est se rendre attentif à la dynamique d'énonciation du texte biblique et à sa cohérence propre. Alors, ça se passe dans les années 70 et ça change pas mal quand même la perspective avec laquelle on regarde le texte biblique. Et on arrive aux 30 dernières années, hein, donc les années 1990-2020. Et au cours de ces 30 dernières années, au fond, on entre là dans une perspective plus théologique. On le doit évidemment à Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Joseph Ratzinger a été quasiment 25 ans préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, puis il est devenu pape, et au fond, il a profité, au bon sens du terme, de ces deux mandats pour approfondir, je dirais, la réflexion de l'Église catholique sur sa pratique d'interprétation du texte biblique. Et donc, je vous cite... un épisode vécu, réel, donc il était devenu pape et il me reçoit avec la commission biblique comme il le faisait chaque année, et donc, beaucoup d'humour, Benoît XVI, il dit « Bon, chers amis, vous êtes des scientifiques, bien sûr, ah, au fait, êtes-vous des croyants ?» Donc, autrement dit, tous les exégètes savent marcher sur leurs pieds scientifiques. Mais, comment on fait pour atteindre un sens théologique, spirituel de l'Écriture si on ne veut pas simplement faire comme les grands anciens, parce que les pères de l'Église ont déjà fait ça, oui, mais ils le faisaient comme des pères de l'Église à leur époque, ils faisaient beaucoup de comparaisons entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ils recherchaient dans l'Ancien Testament la préfiguration de la figure du Christ, et ils le faisaient tellement, développaient à tel point l'allégorie que les auteurs médiévaux en ont un peu eu assez, hein, saint Thomas d'Aquin, qui lui insiste quand même quatre sens de l'écriture, en tant que médiévaux, mais Thomas insiste quand même beaucoup sur le sens littéral du texte biblique. Mais voilà, on est en 2020 bientôt, donc on n'a pas répété ni les pères de l'Église, ni saint Thomas. Donc au fond, la question de Benoît XVI, c'est comment on fait pour faire une lecture canonique, théologique et spirituelle aujourd'hui. Il commence à le dire dans un document de la Commission biblique pontificale en 1993, un document qui est un petit peu vieilli aujourd'hui, qui s'appelle « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». Et dans ce document, il distingue deux choses. Il distingue les méthodes, autrement dit le mécano, voilà, et les approches. Alors, le mécano, c'est que toute personne qui veut un peu travailler la Bible, elle doit avoir, c'est comme un bon mécanicien, elle doit avoir un certain nombre d'outils. Alors parmi ces outils, tout dépend de vos goûts, hein, mais par les langues anciennes. Pas mal de faire de l'hébreu, c'est bien de faire du grec, si vous voulez, allez-y. Il faut aussi un outil historique, voilà, il faut connaître un petit peu l'histoire, il faut être sensible à la littérature, voilà, quels sont les genres littéraires. Donc ça, c'est le mécano, la narrativité, je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il y a ce que le document appelle une approche. Et donc, l'approche canonique, c'est quelque chose qui se rend sensible à la raison pour laquelle on a gardé un texte plutôt qu'un autre. Dans notre Bible, il n'y a pas tout. Il y a des évangiles qui n'y sont pas, l'évangile de Thomas. Il y a des textes qui sont dans l'Ancien Testament en langue grecque, par exemple le 3e et le 4e livre des Maccabées, voilà, et qui ne sont pas dans l'Ancien Testament en langue hébraïque que nous avons gardé majoritairement. Voilà. Donc un certain nombre de textes ont été non conservés. Alors quelle est la raison ? La raison, c'est qu'on a conservé les textes qui faisaient vivre les communautés. La raison de sélection des textes, c'est que, dans leur liturgie, les communautés juives puis chrétiennes considéraient qu'un certain nombre de textes étaient cruciaux, vitaux pour leur foi. Ils les ont gardés, ils les ont canonisés, ça c'est la première étape, la constitution d'un canon, et puis ce canon a été interprété, hein, et l'interprétation du canon fait partie, d'une certaine manière, de l'histoire du canon. Et donc, au fond, le document 93 nous alerte sur ces deux points. Il nous dit « Soyez attentifs à ce qui a conduit à la sélection de certains textes. En quoi était-il décisif ?» dans la foi, hein, et soyez attentifs à la manière dont ces textes, à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, ont été interprétés par des générations de croyants. Voilà. Donc nous sommes, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes des héritiers. Le deuxième pas qui a été fait, hein, et c'est toujours sous l'impulsion de Joseph Ratzinger, c'est en 2001, un autre document de la Commission biblique pontificale, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne. Donc ce document dit en gros qu'un chrétien ne peut pas laisser tomber ou lâcher l'Ancien Testament. Pourquoi ? D'une part, parce que pour comprendre le Nouveau Testament, j'ai besoin de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, tous les évangiles sont pétris d'allusions à de multiples traditions de l'Ancien Testament, particulièrement les évangiles, particulièrement les récits de la Passion. Hein. Et donc, au fond, le Nouveau Testament accomplit, hein, c'est le terme même qu'il utilise pour le dire, accomplit l'espérance d'Israël, et l'espérance d'Israël est au fond la symbolisation de l'espérance de tout homme, la liberté, l'espérance en un Dieu qui va venir visiter l'homme, donc un Messie qui va venir rejoindre ce peuple d'Israël au cœur de l'humanité. Document de 2001 de la Commission biblique pontificale, un peu plus tard, deux ou trois années plus tard, le cardinal Lustiger sort un livre qui s'appelle La Promesse. C'est un livre lustigérien, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu vif, mais en même temps, il fait bien comprendre le problème de la relation qu'il y a entre les deux testaments. Au fond, il installe juifs et chrétiens, les uns et les autres, dans un même inconfort. Que dit Lustiger ? Il dit le risque pour un chrétien, c'est de manipuler le Christ. Voilà. J'ai mon Jésus à moi, j'en fais ce que je veux. Je peux le manipuler comme je veux, je peux en faire une idole, je peux en faire ma chose, je peux en faire ma justification, etc. Qu'est-ce qui m'interdit de faire cela ? La judaïté de Jésus. Je ne choisis pas Jésus comme juif, il s'impose à moi comme juif. Et donc, tout chrétien doit faire le détour, éventuellement gênant, éventuellement ennuyeux, par la judaïté de Jésus. Voilà. Jésus, le juif, qui vient me visiter, et non pas moi qui me saisirai d'un Jésus à ma mesure. Mais de l'autre côté, le cardinal Lustiger dit à la communauté juive, chers amis, vous ne serez vraiment juif que le jour où vous aurez reconnu en Jésus-Christ le Messie. Donc au fond, le chrétien ne l'est vraiment que s'il fait le tour du judaïsme. Sinon, si j'ai des paroles assez dures, hein, l'Église risque d'être idolâtre. L'Église risque d'être idolâtre, écrit-il. Hein, elle est idolâtre à elle-même, à la fin. Mais le judaïsme doit reconnaître qu'il s'est laissé visiter par son Messie. Hein, voilà. Donc, faire jouer les deux testaments, en tout cas. Et puis, au fond, nous arrivons au bout de la ligne avec le synode sur la parole de Dieu, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la soirée, convoqué par le pape Benoît XVI, et ce synode sur la parole de Dieu débouche sur l'exhortation post-synodale, Verbum Domini, qui se présente vraiment comme une relecture de Dei Verbum 50 ans après. Je ne vais pas tout vous dire, je ne sais pas ce que je vous en ai cité ici. En tout cas, je signale à votre attention le numéro 34, hein, qui reprend ce que je vous disais tout à l'heure, une exégèse doit marcher sur deux pieds, un pied littéraire, hein, et scientifique, et un pied théologique, et au fond, le chantier ouvert par Verbum Domini, c'est un chantier théologique. Comment, au fond, les chrétiens aujourd'hui, à partir de la parole de Dieu, vont penser une théologie qui fasse vivre leur communauté, et comment vont-ils mettre en œuvre l'invitation du Concile qui était déjà celle du pape Léon XIII, reconnaître l'Écriture, je cite, comme âme de la théologie. Comme âme de la théologie. L'Écriture est l'âme de la théologie. Donc, j'en viens maintenant à, je dirais, entre guillemets, des travaux pratiques. Et les principaux travaux pratiques ont été faits par la Commission biblique pontificale après, je dirais, ces textes de fond, dans deux documents dont Mgr Souchu m'a très gentiment redonné le texte avant notre soirée. Hein. Donc le document de 2008, traduit en français en 2009, Bible et morale, hein, qui est un texte vraiment que je vous recommande. Hein. Je vais vraiment essayer de vous en donner les grands axes maintenant, et puis je serai beaucoup plus bref sur ce document de 2014 sur inspiration et vérité de l'Écriture sainte. Donc, Bible et morale, c'est le souhait du pape Jean-Paul II que la commission d'évêques pontificale travaille sur la question morale à partir de l'année 2002. Travail extrêmement difficile, et travail difficile comme l'écrit lui-même le cardinal Ratzinger, qui l'écrit lorsqu'il est encore cardinal, et lorsqu'il préside cette commission, il dit, mais vouloir se fonder sur l'écriture pour construire un discours moral pour aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Pourquoi est-ce difficile? D'abord, évidemment, parce que les textes bibliques ont été écrits entre 700 ans avant notre ère et l'an 130 de notre ère, si je considère que la deuxième lettre de Pierre est le plus tardif, qui date de 130. Hein. Et donc, il y a une énorme distance culturelle entre ces textes et nous. Donc, quand nous lisons la Bible, nous ne sommes pas chez nous, d'une certaine manière, sauf pour les textes que nous avons le plus entendus. Parfois, nous sommes surpris par la distance culturelle. Et moi, j'ai été un jour assez étonné, mais ça m'a donné à penser. Donc, j'ai été 8 ans curé d'une paroisse rurale de mon diocèse. Et donc, les chrétiens disaient, mais Olivier, il ne faut plus lire les lettres de Paul, on ne comprend pas. On ne comprend pas les lettres de Paul. Et c'est vrai que les lettres de Paul, c'est compliqué à comprendre. Donc, distance culturelle. Deuxièmement, complexité du texte biblique. Je vous disais tout à l'heure, donc, si vous commencez la lecture de Genèse 2 après Genèse 1, vous n'y comprenez plus rien, puisqu'on recommence à zéro un récit de création qui a déjà eu lieu. Comment ça marche? C'est compliqué. Troisièmement, nos questions morales contemporaines urgentes n'ont pas été pensées par les hommes de la Bible. L'écologie, ou l'écologie intégrale du pape François, bien sûr, on va penser tout à l'heure un rapport entre écologie et création. Mais le souci de l'an zéro, ce n'est pas un souci écologique, c'est plutôt la pauvreté, c'est plutôt les inégalités sociales, c'est plutôt l'injustice liée aux puissants. On voit bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament l'insistance en morale sociale est considérable, hein, parce que les sociétés sont de l'injustice flagrante, que les riches le sont beaucoup et que les miséreux sont innombrables. Les questions liées au développement scientifique et technique que nous connaissons. Par exemple, il y a une équipe de chercheurs à l'Institut catholique de Paris qui s'intéresse aux conséquences pour l'homme, pour la compréhension que l'homme a de lui-même du numérique. Ça veut dire quoi? Que je passe la journée avec mon iPhone dans la main et que éventuellement je ne regarde plus mon interlocuteur parce que tiens, j'ai un nouveau mail, c'est sympa, etc. Ça change quoi? Et ça change quoi d'avoir tout à coup accès à toute l'information sans médiation? Et voilà. Bon. Quand même, certaines toute-puissance qui peut être liée à ça. Donc, on pourrait assez vite se passer de Dieu, puisque nous sommes devenus des dieux, grâce à la technique. Voilà. Et puis, on parle de nouveau, puisque le législateur va s'en saisir de la procréation médicalement assistée. Hein, évidemment que la Bible ne pense pas directement ce type de question. Et donc, la question qui se pose, c'est comment peut-elle nous aider à investir ce type de problème? Alors, comment a fait le document de la Commission des Évêques Pontificales? Premièrement, dans son introduction, et je pense que je vous écris ça au début de la troisième page de votre micro polycopié, ce document développe, dans son numéro 4, une notion qui a un petit peu fait réagir les moralistes parce qu'ils n'avaient pas tout à fait compris de quoi il s'agissait au départ, la notion de morale révélée. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que nous allons tout savoir sur la morale à partir du texte biblique. Non. Ce que ça veut dire, c'est de la même manière que Dieu se révèle à l'homme comme créateur et sauveur, de la même manière Dieu se révèle à l'homme en lui donnant des lois, voilà, comme législateur. Et à quoi servent ces lois? Elles servent à indiquer à l'homme qui se reçoit de son Dieu le chemin de la réponse. Autrement dit, le texte biblique nous installe dans une relation de dialogue avec Dieu. Dieu nous parle le premier, comme créateur, il nous crée, il nous donne la vie, il nous donne un monde, comme sauveur. Au fond, la Bible ne cesse d'affirmer de multiples manières que Dieu nous sauve du mal sous toutes ses formes. La violence, puis ensuite, plus tardivement, la mort, quand on avance dans les traditions bibliques. Et en même temps, ce don est inconditionnel. Dieu nous donne cela sans condition. Et la Bible nous fait découvrir un Dieu en attente. En attente de quoi? De notre réponse. Et cette réponse a un cadre dans la Bible. Ce cadre, on l'évoque à chaque Eucharistie, c'est le cadre de l'Alliance. L'Alliance, c'est la proposition d'un pacte par Dieu à l'humanité qu'il crée. Et c'est l'attente patiente par ce Dieu de la réponse de l'humanité. Dieu ne contraint jamais. Il n'y a aucune contrainte, mais il y a une attente. Et donc la Bible nous fait découvrir un Dieu peut-être un peu différent de ce que nous pensions, non pas un tout-puissant qui nous impose le schéma global de notre vie de A à Z, mais un Dieu qui se fait, qui se rend disponible, voire faible parfois, dans la mesure où il se rend dépendant de la réponse de l'homme. Donc c'est ça que veut dire cette notion de morale révélée, c'est-à-dire que Dieu révèle à l'homme les moyens d'une juste réponse, mais il appartient à l'homme, dans sa liberté, d'y consentir ou pas. Donc, premier élément qu'appuie, je dirais, ce texte biblique et moral. Deuxième élément, ce texte insiste résolument sur une approche canonique de l'Écriture, et je vais essayer de vous montrer pourquoi avec trois exemples. Premier exemple, c'est celui de la morale sexuelle et familiale. Dans, encore du temps de mes études, qui date maintenant d'un certain temps, là je suis rentré au séminaire il y a 35 ans, donc au temps de mes études, les manuels de théologie morale, quand ils parlaient du mariage, citaient cinq textes. Genèse 1, 26-27, à son image il les créa, homme et femme il les créa. Genèse 2, 21-24, Ish et Isha quitteront leur père et leur mère et ne feront que Bassar et Rad, une seule chair. Hein, voilà. Puis ensuite, on allait voir Marc 10 et Matthieu 19 qui disaient comment, au fond, Jésus radicalisait les autorisations de divorce données par la loi d'Israël en interdisant non seulement l'adultère mais le divorce. Et puis, on allait voir Éphésiens 5, qui donnait une compréhension sacramentelle du mariage en comparant finalement l'union de l'homme et de la femme à l'union du Christ et de son Église. Le problème, c'est que vous voyez bien que si je suis cette méthode-là, j'ai déjà ma théologie du mariage, voilà, et je vais à la pêche dans le texte biblique pour trouver les textes qui viennent illustrer une théorie qui n'a pas attendu le texte biblique pour se faire. Bon, voilà. Donc, j'avais été assez intéressé par le petit livre de Xavier Lacroix en son temps, Le mariage tout simplement, qui, on est en 90, dans les années 90, qui fait autrement. Lacroix mobilisait des tas de textes, mais pas ceux-là. Voilà. Donc, il mobilisait des textes sur la réconciliation, il mobilisait des textes sur l'Eucharistie, voilà. Et donc, effectivement, le document de la Commission biblique sur l'idée morale invite à repérer dans l'Écriture sainte les axes qui structurent toute la Bible. Voilà. Les fils que vous pouvez suivre d'un bout à l'autre de la Bible. Hein, c'est-à-dire des trajectoires. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a la trajectoire de la création, hein, que vous pouvez suivre d'un bout à l'autre. Il y a la trajectoire du salut, que vous pouvez suivre d'un bout à l'autre. Il y a la trajectoire de l'alliance, que vous pouvez suivre d'un bout à l'autre. Et ensuite, des thématiques qu'on peut suivre. La thématique du corps, par exemple, est une thématique qui traverse toute l'Écriture, au sens propre, hein, le corps, effectivement, en Genèse 2, 21-24, mais thématique du corps au sens symbolique que vous trouvez, par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Voilà. La thématique, effectivement, de la faute et du pardon. Voilà. Et, au fond, l'invitation du document, c'est plus de voir comment ces grandes thématiques qui fédèrent l'Écriture tout entière, qui fédèrent le canon des Écritures, comment éclairent-elles d'une manière nouvelle les réalités humaines que nous vivons? Création, voilà. Ce que je vis ne m'appartient pas. Dire que je crois en Dieu créateur, c'est renoncer à un esprit de propriétaire. Voilà. Je ne peux me considérer comme propriétaire de tout que si j'exclus la possibilité de donation. Une fois que je reçois Dieu comme celui qui me donne ma propre existence et tout ce qui me sert à vivre, je me dois d'abandonner un esprit propriétaire. Voilà. Et bien dans le mariage, c'est pareil, évidemment. Voilà. Les époux se reçoivent l'un de l'autre. Au fond, ils sont recréés à neuf par cette histoire d'amour qui ne leur appartient pas. Voilà. Création, donation, c'est la première piste. Salut, faute et pardon, évidemment, on voit bien comment, particulièrement dans les années 2000, ces thèmes résonnent. Hein. Au fond, un certain nombre de jeunes gens ne croient pas que dans la relation humaine, il puisse y avoir une deuxième chance. Hein. Une relation abîmée est forcément foutue. Voilà. Au fond, la Bible ne cesse de nous dire le contraire. Voilà. Si une relation abîmée était fichue, mais la relation d'Israël avec son Dieu serait morte. Immédiatement. Et notre relation au Christ, même chose. Pierre, pendant la Passion, voilà. Il l'abandonne séance clémente, en moins de 24 heures. Donc, autrement dit, peut-être une deuxième piste, vous voyez, c'est au fond, on a des vies couturées, des coups que nous donnons et des coups que nous prenons, et ce n'est pas un drame parce qu'au fond, la grâce du salut et la grâce du pardon nous permet d'assumer ces coutures. Le corps, pas simplement le corps des époux, mais le corps de l'Église, c'est-à-dire et le corps de la société. Je pense qu'en lisant l'Écriture, on peut très bien argumenter sur la responsabilité ecclésiale et la responsabilité sociale des époux. Se marier, c'est pas un acte privé. Je pense que se marier, c'est un acte de sociabilité et de socialisation qui profite à toute la société. Et d'autre part, c'est un acte de confiance au Christ, qui construit l'Église, etc., vous me suivez. Hein. Vous voyez comment, au fond, ces grands axes structurants, je pourrais aussi parler de la pauvreté, hein, le thème de la pauvreté est omniprésent dans l'Écriture, hein, et j'imagine que bien des époux se sentent pauvres à bien des moments de leur vie conjugale, comme bien des prêtres se sentent pauvres à bien des moments de leur ministère, et au fond, reconnaître en ces moments-là que c'est justement ces pauvretés que le Christ accueille et qu'il transforme en espérance eschatologique par les béatitudes, ça change aussi la donne. Voilà. C'est mon premier exemple. Deuxième exemple, qu'est-ce qu'on peut faire du décalogue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire des 10 commandements? Vous lisez le catéchisme de l'Église catholique et vous lisez l'affirmation forte, hein, c'est que le contenu des 10 commandements, c'est le contenu de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est ce que tout le monde, vous, moi, par notre simple conscience, pouvons trouver comme règle de vie avec une conscience droite. Autrement dit, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le décalogue, c'est la révélation de ce que, par ailleurs, une conscience droite peut mettre au jour. Alors, on pourrait dire, mais voilà, c'est une liste d'interdictions, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Alors d'abord, le décalogue n'est pas simplement une loi. Je ne sais pas si vous avez en tête le premier verset, qui est le même en Exode 22 et en Deutéronome 5-6. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Ça, ce n'est pas de la loi, c'est du récit. Et une fois seulement que ceci est dit, alors on peut passer à l'énoncé de la loi, on va y revenir, mais déjà ce point-là est formidable. « Je ne peux en venir à la loi » que si j'ai fait mémoire et que si j'ai fait action de grâce pour le don de Dieu. Autrement dit, la morale ne commence pas par l'énoncé de l'interdit ou du permis, la morale commence par la mémoire, l'action de faire mémoire et de rendre grâce pour le don de Dieu. Dans notre vie, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas la bonne question. Relisons d'abord ce qu'il m'a été donné de vivre et qui me l'a donné. Ultimement Dieu, bien sûr, plus précisément qui et comment. Hein. Et c'est simplement en faisant mémoire de ce que j'ai reçu que je peux alors peut-être entrer dans une action qui, effectivement, se conformera à un certain nombre de règles, parce qu'elle prendra le sens d'une réponse. Alors après ça, dans le décalogue, ces règles sont de trois ordres. Il y a d'abord une première partie qui concerne, en gros, l'idolâtrie, hein, j'abrège, c'est... Puisque vous n'êtes plus des esclaves en Égypte, ne devenez pas esclaves des idoles. Donc, autrement dit, le texte nous alerte sur le fait que l'idolâtrie est omniprésente dans la vie de l'homme. Le livre de Deutéronome aussi a cette insistance. Alors, qu'est-ce que c'est l'idole? Il y a un exégète belge qui s'appelle André Wénin qui a écrit des belles choses là-dessus et qui dit au fond, l'idole, c'est la projection divinisée de notre désir. Bah oui, l'idole, c'est nous en réalité. C'est-à-dire que on est idolâtre à partir du moment où nous prenons la première place dans notre propre vie, c'est-à-dire où nous nous substituons à Dieu. Voilà. Donc, premier lieu. Deuxième lieu, c'est le sabbat. On peut dire pourquoi ça nous regarde, le sabbat, on ne le respecte plus. Simplement, ce qu'il y a derrière est intéressant. Le jour du sabbat, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave. Tout le monde est égal devant Dieu, dans un commun repos. Et donc, au fond, respecter le sabbat, c'est faire mémoire du fait que Dieu est libérateur et qu'il nous donne à tous une égale liberté. Cette liberté et cette égalité, nous la vivons, nous, chrétiens, aujourd'hui, dans l'Eucharistie. Quand je partage avec tous les frères qui sont là, eux et les sœurs, que je n'ai pas choisi, le même pain, la même hostie, des jeunes, des vieux, des beaux, des moches, des riches, des pauvres, le même pain. Autrement dit, aux yeux de Dieu, tous ont la même dignité et la même liberté retrouvée à ce moment-là. Voilà. Deuxième axe. Troisième axe, le prochain. Voilà. Ben, le prochain, je ne dois pas l'asservir. Voilà. Et on voit que là, on revient quand même beaucoup aux questions contemporaines, parce qu'on voit que quand même beaucoup des questions que l'on pose aujourd'hui, de manière assez technique, la GPA, la PMA, sont des questions qu'on pose en termes de droit et en termes de technique. Mais au fond, est-ce qu'on se les pose en termes de prochain ? Voilà. Ne pas asservir le prochain, ne pas en faire un moyen pour moi, pour avoir un enfant, pour ne pas en avoir un. Voilà. Donc ne pas asservir, et puis le libérer de mes désirs. La dernière partie du décalogue libère le prochain de mes désirs de propriété, de mes désirs d'accaparement, de mes désirs de mort, etc. Donc, on voit que le décalogue, qui n'a l'air de rien, si j'ose dire, un petit texte très bref, nous renvoie à des dimensions capitales de notre existence. Mon troisième exemple est un exemple assez contemporain aussi, et un peu plus technique, je m'en excuse, donc, enfin, je vais essayer de ne pas être trop quand même. Bon, la question du rapport à l'étranger est évidemment au cœur du débat politique, comme nous le voyons tous, ici en France et en Europe. Et au fond, on pourrait très bien dire, vous, biblistes, au fond, qu'est-ce que vous avez à dire sur le rapport à l'étranger, comment ça se passe dans la Bible? Et la première réponse, c'est que c'est épouvantablement compliqué, parce que si je prends les traditions les unes après les autres dans l'Ancien Testament, puisqu'il y a pas mal de traditions s'intéressent à cette question de l'étranger dans l'Ancien Testament, elles se saisissent de la question de l'étranger en apportant des réponses contradictoires les unes avec les autres. Alors, je prends le livre de Ruth, par exemple, un joli petit livre en quatre chapitres, qui raconte comment Élimélec et Naomi, qui étaient frappés par la famine à Bethléem, vont vivre en Moab, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie, dans la Jordanie actuelle. Et puis, leurs fils prennent des épouses étrangères, des Moabites. Élimélec meurt, les époux meurent, les belles filles restent avec leur belle-mère, Naomi. La situation est meilleure à Bethléem, et donc Ruth veut absolument rentrer avec Naomi à Bethléem, non pas parce qu'il y a de quoi manger à Bethléem, mais parce qu'elle veut que le Dieu d'Israël soit son Dieu et que le peuple d'Israël soit son peuple. Or, c'est une Moabite. Le livre de Deutéronome nous dit que la Moabite doit être exclue du peuple d'Israël pendant 10 générations. Donc, autrement dit, elle demande quelque chose à quoi elle n'a pas droit, parce qu'elle est étrangère. Finale du livre, elle a, en faisant fonctionner différentes lois de la Torah, donné une descendance à Naomi qui en était privée, et elle est acclamée par les femmes de Bethléem qui disent qu'elle vaut mieux que cette Israélite. Donc, le livre de Ruth est un plaidoyer vibrant pour l'intégration des étrangers dans le peuple. Vous allez voir Esdras et Néhémie, au chapitre 9, tout le monde déchire Esdras, tout le monde déchire ses vêtements, parce qu'on s'aperçoit que les hommes du pays ont pris des femmes étrangères, ont eu des enfants avec elles, et donc Esdras fait renvoyer toutes les femmes étrangères et tous leurs enfants pour que le peuple reste pur et sain. Entre deux, vous avez toutes les nuances, si j'ose dire. Si vous êtes dans le Lévitique, on voit qu'on a deux groupes qu'on essaye de faire vivre ensemble. L'étranger qui vit avec la communauté et la communauté elle-même. Et donc, on a cette belle phrase dans le chapitre 19 du Lévitique, au verset 34, « Tu aimeras l'étranger comme ton frère. » Ne nous emballons pas trop vite, hein. Aimer dans les rites hébraïques, ça n'a rien d'affectif, c'est simplement exécuter le droit tel qu'on doit le faire. Donc, autrement dit, tu aimes l'étranger comme ton frère, ça veut dire tu fais tout ce que la loi prévoit à son égard de manière correcte. Puis on a le Deutéronome et Josué qui ne sont quand même pas dans une perspective d'extrême ouverture vis-à-vis des étrangers, puisqu'il faut d'abord tous les exterminer pour prendre possession du pays. Voilà. Et comment je fais une fois que j'ai tout ça devant les mains? Bon, constat minimal, tant qu'il y a du débat au 5e siècle avant notre ère en Judée pour savoir quelles sont les frontières de la communauté, et au fond ça nous rassure. Voilà. Ces débats-là, interminables, au cœur de la société française, n'ont rien de neuf. Voilà. Au 5e siècle avant notre ère, les Judéens discutaient pour savoir qui avait le droit de faire partie du peuple d'Israël et qui n'avait pas le droit. Et ils n'étaient pas d'accord. Bon, très bien. Là, pour l'instant, j'ai regardé, voilà, j'ai pris que 4 petits flashs, 4-5. Je n'ai pas regardé la Bible, je n'ai pas regardé la reliure du père Charles Perrault. Et si je regarde le canon, la situation s'éclaire assez vite. Comment commence la Bible? Elle commence par un propos d'anthropologie générale qui s'adresse à tout homme. Voilà. Genèse 3, en Genèse 2, c'est le paradis, là, c'est le cas de le dire. Hein. Genèse 3, c'est quoi? C'est le retour en réalité. Ah oui, Adam est mortel. Ah oui, il va devoir travailler pour vivre. Ah oui, l'accouchement est douloureux. Mais ah oui, il vit loin de Dieu, c'est-à-dire que Adam a les mêmes conditions de vie que les nôtres. Donc, le troisième chapitre de la Genèse, c'est le chapitre du réalisme. Et ensuite, l'arrivée de la violence, l'arrivée du meurtre, le refus de Dieu, le refus du frère, la séparation des peuples, etc. Donc, autrement dit, les 11 premiers chapitres de la Genèse s'adressent à tout homme, sans exclusive, et l'alliance qui est contractée avec Noé au chapitre 9 est une alliance pour toute l'humanité. Donc, au fond, la grande ouverture solennelle de la Bible nous dit, chers amis, vous formez une seule et unique humanité. Il n'y a pas deux poids, deux mesures pour Dieu en fonction des hommes. Tous sont ses créatures. Et puis, si vous allez à l'autre bout, c'est-à-dire si vous arrivez dans le Nouveau Testament, je crois que la lecture des Actes des Apôtres est assez intéressante pour voir à qui s'adresse l'Évangile. On commence par Jérusalem. Ça marche moyennement bien. Voilà. Alors on va un petit peu plus loin, on va en Samarie, Philippe, Acte 8, et puis on va un petit peu plus loin, on va sur la côte, on va à Césarée, et puis on va un petit peu plus loin, on va en Syrie, on va à Antioche, et puis on prend un bateau, on va en Grèce, on va en Asie mineure, etc., on va à Rome. Autrement dit, la mission est universelle, elle s'adresse à tous les peuples, elle s'adresse à tout homme. Et au fond, le but, c'est que tous rencontrent le Christ sans exception de personne. Et puis, au fond, la perspective eschatologique est une perspective de rencontre de Dieu pour tout un chacun. Donc on voit bien que si on prend l'Écriture dans sa grande largeur, le débat sur qui appartient au peuple de Dieu n'a plus aucune raison de se poser. Donc après ça, évidemment, en théologie morale, il va falloir faire jouer des règles de sagesse, des règles prudentielles. Et sur le plan de la théologie elle-même, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que égale dignité et égal poids pour tout un chacun dans l'humanité, et aussi égal devoir. C'est-à-dire que tout un chacun a finalement les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis d'un prochain qui est effectivement sans limite. Un prochain, c'est tout homme que je rencontre sans l'avoir prévu, quel que soit le lieu et les modalités de cette rencontre. Donc, j'espère que ces exemples vous ont donné quelques pistes pour entrer au moins dans la question. Je vous dis deux mots simplement de la deuxième, du deuxième document qui est sur la table, le document Inspiration et Vérité, qui est un document de 2014 de la Commission des Évêques Pontificales. Alors, c'était une question un tout petit peu différente, puisqu'elle est moins immédiatement pratique. Elle s'appelait, d'une part, qu'est-ce qu'on appelle inspiration? Et les pères synodaux avaient demandé au pape lors du synode sur la parole de Dieu, une commission spéciale traite le problème de l'inspiration, et c'est la commission biblique qui en a été chargée. Et sur cette question de l'inspiration, au fond, le constat majeur qui est fait dans le document de la commission biblique, c'est que Dieu parle, voilà, l'écriture ne cesse d'utiliser des verbes de parole pour manifester qu'il y a une volonté constante de Dieu de se faire connaître aux hommes par sa parole. Je prends par exemple l'ouverture de la lettre aux Hébreux, Hébreux 1, 1 et 2. À bien des reprises, de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin de ces jours où nous sommes, il a parlé par son Fils, etc. etc. Donc l'Écriture sainte se présente comme parole inspirée de Dieu, et l'Écriture sainte est reconnue par des communautés chrétiennes comme telle. Au fond, il y a un double mouvement. Elle se présente comme parole inspirée, et c'est le mouvement de tout à l'heure, c'est le mouvement de elle se donne comme parole inspirée, et allons-nous la recevoir. Et donc elle requiert que des communautés chrétiennes la reçoivent comme telle, ce que nous faisons. Je n'insiste pas. Le problème de la vérité des Écritures, bon, je laisse de côté le problème de la vérité historique que j'ai cité tout à l'heure. Le point, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments des Écritures qui aujourd'hui peuvent choquer le lecteur contemporain. La Commission biblique en a particulièrement souligné deux, la violence de certains textes, les textes de massacre que je vous citais tout à l'heure dans le livre de Josué, il faut d'abord exterminer tout le monde pour que Israël conquiert le pays, et puis la question de la place des femmes, quand même, qui apparaît parfois un petit peu minorée dans un certain nombre de textes bibliques. Donc le document, si ça vous intéresse, vous le regarderez, s'attelle à ces questions. Pour la violence, on fait vraiment de l'exégèse. Et au fond, on constate que, pour le coup, là aussi, il y a débat dans la Bible. C'est-à-dire que si Josué décrit une conquête ultra-violente du pays, au même moment, le livre de la Genèse nous explique qu'Abraham vit au milieu des Hittites à Hébron comme un étranger. Autrement dit, il n'y a aucune prétention de conquête violente dans la Genèse, mais il y a au contraire une installation pacifique d'Abraham dans le pays de Canaan. Donc on voit au fond qu'il y a eu à l'intérieur même d'Israël un conflit d'identité sur la manière de se comprendre. Tandis que certains voyaient leur identité liée avec la terre, je dirais que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le conflit israélo-palestinien, sont liés pour partie à une lecture fondamentaliste du livre de Josué, qu'on a connu aussi en Afrique du Sud, dans certaines communautés protestantes, qui disaient que les Africains étaient le peuple élu et que par conséquent, il fallait spolier la terre sans vergogne. Même chose en Nouvelle-Angleterre, d'ailleurs. On a une autre ligne dans la même Bible hébraïque qui dit que la terre n'est absolument pas le problème, que le problème, c'est la sainteté. C'est-à-dire la proximité de Dieu. Comment je fais pour devenir le compagnon de Dieu? Une belle question. La place des femmes, au fond, le document retourne un petit peu la question en disant que, en réalité, pour l'époque, qui est une époque ultra-patriarcale, où les femmes n'ont pas grand droit, même dans la Bible hébraïque, les femmes n'ont pas le droit de transmettre le patrimoine jusqu'à très tard. Ce n'est qu'en nombre 27 et en nombre 36, texte très tardif, que vous trouvez pour la première fois la mention de femmes qui, s'il n'y a plus aucun homme survivant dans leur généalogie, peuvent être dépositaires du patrimoine le temps qu'elles se marient, dans le clan. Là, je fais plutôt allusion à des traditions pauliniennes, Éphésiens 5 en particulier, également la tenue des femmes dans les assemblées dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 14. En réalité, par rapport à la culture ambiante, il y a plutôt une assez grande liberté du texte biblique, parce qu'en particulier dans Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, respectez vos femmes. Autrement dit, les verbes ne sont pas les mêmes, mais il y a une double obligation croisée qui est énoncée de telle manière que la symétrie qui existe de toute manière à ce moment-là dans la société, est quand même relativisée. Alors, au fond, deuxième commentaire, bien entendu qu'il faut actualiser et inculturer le texte biblique, et au fond, ce que je suis en train de dire de la place des femmes dans le corpus des lettres de Paul, nous vaccine contre tout fondamentalisme. Interpréter la Bible, ce n'est pas la répéter servilement, c'est voir comment on peut lui faire donner du fruit aujourd'hui. Je termine simplement sur un point important qui est la liturgie. Je reviens donc à Verbum Domini, et Verbum Domini, au fond, nous fait comprendre quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre peut-être, qui était déjà présent dans le Concile Vatican II, sur quoi on n'a pas tellement insisté en exégèse biblique, en tout cas, c'est le lieu le plus juste, le lieu ultime, finalement, de l'interprétation vraie du texte biblique, c'est la célébration liturgique, et plus particulièrement la liturgie eucharistique. Le pape Benoît dit cela très bien dans le numéro 56 de Verbum Domini que je vous ai reproduit à la fin de notre 4 pages, et je le lis et je le commente un peu. La sacramentalité de la parole se comprend par analogie à la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin consacré. Oui, ça va très loin. La sacramentalité de la parole par analogie. En nous approchant de l'autel et en prenant part au banquet eucharistique, nous communions réellement au corps et au sang du Christ. La proclamation de la parole de Dieu dans la célébration implique la reconnaissance que le Christ lui-même est présent et s'adresse à nous pour être écouté. Donc le Christ présent dans le canon des Écritures, on le disait tout à l'heure. Sur l'attitude à avoir aussi bien envers l'Eucharistie qu'envers la parole de Dieu, saint Jérôme affirme « Nous lisons les Saintes Écritures, je pense que l'Évangile est le corps du Christ, je pense que les Saintes Écritures sont son enseignement. » Et quand il dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, ces paroles se réfèrent au mystère eucharistique. Toutefois, le corps du Christ et son sang sont vraiment la parole de l'Écriture, c'est l'enseignement de Dieu. Quand nous nous référons au mystère eucharistique, que miette de pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, la chair du Christ et son sang qui tombe dans nos oreilles. Et nous pensons à autre chose pour nous imaginer le grand danger que nous courons. » Voilà, très fort. Le Christ réellement présent dans les espèces du pain et du vin est présent analogiquement dans la parole présente, proclamée dans la liturgie. Approfondir le sens de la sacramentalité de la parole de Dieu peut donc favoriser une compréhension plus unifiée du mystère de la révélation, etc. etc. Par l'heure suivant, je ne vous l'ai pas mis, mais là on reconnaît le caractère taquin de Benoît XVI qui parle de l'homélie et qui dit donc, qui recommande quand même aux prêtres, particulièrement qui font les homélies, de plutôt parler de l'écriture que d'eux-mêmes. Hein, voilà. Donc, le ministre qui commente l'écriture aura soin de ne pas se mettre lui-même au premier plan, mais de laisser la parole prendre de ce premier rang. Hein, voilà. Plus sérieusement, vous voyez quand même, cet ensemble est un ensemble complexe, parce que dans l'Eucharistie, bon, la communauté est rassemblée. Elle est nourrie du même pain de la parole, même pas eucharistique. Et donc nous sommes créés égaux dans cette écoute de la parole et dans cette nourriture eucharistique. Et puis, hein, le sacrement débouche sur l'action, c'est-à-dire que nous sommes envoyés à la fin de l'Eucharistie, aller dans la paix du Christ. C'est tout un programme. Hein, c'est pas simplement... parfois les diacres commandent un peu, développent, frères et sœurs, allez, joyeux, etc. Non, non, la formule suffit. Aller dans la paix du Christ, c'est-à-dire aller en responsabilité, témoigner de ce que vous avez reçu, c'est-à-dire votre fraternité, votre égalité, votre dignité, votre liberté, hein, dans la paix du Christ, promise pour les temps derniers, mais encore à construire. Donc nous voici en responsabilité de la paix dans toutes ses dimensions, politique, fraternelle avec notre prochain, familiale, conjugale.